C'est l'heure de retrouver notre ami Daniel Brière pour notre conversation hebdomadaire aux amateurs de sport. Salut, mon Daniel.
Salut, mon Mario.
Hey, juste une petite carte postale avant d'entrer dans le vif de nos sujets, là. T'es à Jonestown, le vrai Jonestown du film Slapshot. Ça ressemble-tu encore à ce qu'on voyait dans le film? Ton garçon évolue là.
Oui, mon garçon, Carson, évolue là. C'est sa deuxième saison pour l'équipe junior à Jonestown. Puis, honnêtement, il n'y a pas grand-chose d'autre à Jonestown. Il y a toujours là, c'est un bon spectacle. Il y a toujours beaucoup de monde au match. C'est assez intéressant pour des joueurs juniors aux États-Unis d'avoir la chance de jouer devant autant de fans. Fait que c'est une bonne place de hockey junior. Dans le cas de Slapshot, oui, ils ont fait un genre de musée à l'aréna pour se remémorer un peu là, le film, puis ce qui a été laissé derrière des chandails ou des articles là, qui ont été utilisés dans le film. Donc, c'est quand même assez spécial.
Ben, j'imagine. Je suis jamais allé là, mais merci de nous en parler. D'autre part, ce ne sont pas les sujets qui manquent pour alimenter notre conversation, Daniel. C'est pas un sujet frais du jour, mais on va finir tout à l'heure avec le départ de Thomas Plekanec, ton ami. Mais dans un premier temps, parce que tu as été un joueur jusqu'à tout récemment dans la Ligue nationale, l'épisode Uber, là, ou Uber avec les joueurs des Sénateurs d'Ottawa, comment tu as réagi en prenant connaissance de ça?
Ah, écoute, j'essayais de repenser à toutes les fois où j'aurais pu être dans la même situation.
Oui.
Un groupe de joueurs ensemble où on est frustré, surtout quand les choses vont pas bien avec l'équipe. Les gars ensemble qui se défoulent, puis tu penses pas à te faire filmer dans ces situations-là. Écoute, c'est pas la première fois que ça arrive, puis ça sera pas la dernière non plus. Les joueurs sont souvent dans ces positions-là, puis j'en avais mal au cœur de les entendre, parce que je me disais, arrêtez, les gars, arrêtez, s'il vous plaît. Mais je sais très bien que ça se passe régulièrement, puis c'est pas quelque chose où les joueurs vont s'arrêter pour avoir peur de tout ça. Ça arrive régulièrement. Malheureusement, le film ou la vidéo de ça a été relancée, puis c'est triste parce que ça arrive tellement souvent là, que je peux même pas les blâmer.
Penses-tu que ça va affecter la carrière de l'entraîneur adjoint Martin Raymond, l'entraîneur adjoint qui travaille aux côtés de Guy Boucher, que de le voir, ben on le voit pas, mais d'entendre des joueurs le râper comme ça?
Ouais, non, je crois pas. Par contre, je pense que ça va le pousser. Il va devoir s'améliorer lui-même. Je pense que ça va le pousser. Peut-être atteindre un autre niveau comme entraîneur. C'est sûr que ça fait mal. Puis j'ai pas aimé entendre ces commentaires-là. Puis tu veux jamais que ce soit public, comme dans le cas de Martin Raymond. Mais d'un autre côté, moi je pense que ça va le forcer à s'améliorer comme entraîneur. Puis ça va le pousser au prochain niveau. Puis peut-être même que ça va l'aider. Ce qui est arrivé. En tout cas, j'espère que il va être capable de tourner ça en effet positif là dans son cas. Parce que, écoute, il a toujours eu une bonne réputation avant là cette vidéo-là. Donc, j'espère que ça affectera pas Martin Raymond.
Tu parles de réputation. Bon, sans qu'on sache trop pourquoi, Matt Duchesne avait pas la meilleure des réputations. Est-ce que la sortie de cette vidéo-là, malgré ses excuses qui semblaient bien senties, vient alimenter la perception selon laquelle c'est pas un grand joueur d'équipe ou c'est peut-être un joueur difficile à gérer?
Ouais, ben encore une fois, on dirait que ces histoires-là semblent suivre un peu Matt Duchesne. C'est triste. Puis surtout avec les jeunes joueurs, il devrait être une influence positive pour ces jeunes joueurs-là. Tu sais, quand on pense à Formanton, on pense à Chabot, à Colin White notamment. C'est un peu ça là, que je suis peut-être déçu dans son cas. Il devrait avoir une meilleure attitude là, pour amener ces joueurs-là peut-être à avoir eux autres aussi une bonne attitude au lieu de les diriger. Là, quand les choses vont mal, c'est facile de se diriger vers le négatif. Dans le cas de Matt Duchesne, il est assez vieux. Il devrait comprendre que ces joueurs-là, il doit les amener dans une bonne position ou disons dans une position plus positive envers l'organisation, envers leur équipe. C'est ce côté-là que j'ai pas aimé de Matt Duchesne. Mais je pense que pour tous ces joueurs-là, ça va les forcer eux autres aussi à peut-être être meilleurs, être de meilleurs coéquipiers, à être des joueurs qui vont écouter un peu plus les attentives des entraîneurs. Donc, ça peut être une bonne chose pour les Sénateurs. Puis ces joueurs-là, la majorité de ces joueurs-là semblent jouer du meilleur hockey les deux derniers matchs là pour les Sénateurs.
En tout cas, s'il y avait ce que j'appelle un abcès, il a été crevé, peut-être pas de la façon idéale. Mais ce que ça me dit, là, Daniel, c'est peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui manquent de courage dans le quotidien, autant du côté des entraîneurs que des joueurs. Parce que si on en vient qu'à s'alimenter entre joueurs envers ses entraîneurs ou le contraire des coachs qui râpent leurs joueurs, ça veut dire qu'on n'est pas capable d'aborder des situations avec les personnes en face?
Ben, écoute, c'est possible. Moi, je pense que c'était plus la frustration dans le cas des joueurs. Tu sais que les Sénateurs n'ont pas connu un énorme début de saison. Il y avait beaucoup de frustration de ce côté-là. Écoute, j'en ai fait partie, moi aussi, de ces discussions-là où des fois, on se laisse aller puis on s'entraîne un peu tous dans le négatif. C'est pas facile de sortir de ça. Donc, je suis pas sûr que c'est vraiment le message qu'on espérait en sortir du côté des joueurs des Sénateurs. Je pense que ça a frappé. Puis on s'attendait pas à ce que ça sorte publiquement. Puis je suis certain qu'on n'aurait pas dit ça publiquement. Donc je suis pas certain là qu'il y ait un si gros problème que ça. Même comme je te disais plus tôt, moi je pense que ça va les forcer autant les entraîneurs que les joueurs à être meilleurs, à être des meilleurs coéquipiers, à être des meilleurs entraîneurs, puis à aussi apporter une attention peut-être plus importante au règlement ou de l'équipe là, tu sais, quand on enseigne du côté des entraîneurs ou d'écouter du côté des joueurs.
Il y a un bout les gants du filet cheap quand avant même que ça soit diffusé là puis qu'on puisse le visionner tout le monde, quand ils ont su que la vidéo existait, qu'ils ont été contactés et que ça pouvait être publié, et boy que des gars devaient ils devaient graffiner en coulisses pour essayer de savoir comment ils allaient arranger ça, hein.
Ah, je comprends. Écoute, le hamster en haut dans le cerveau a dû fonctionner à 100 000 à l'heure pour ces gars-là. Écoute, j'en avais des frissons. Je me sentais mal pour eux quand j'ai entendu la vidéo. Donc, je peux même pas imaginer en faire partie.
Thomas Plekanec et le Canadien, c'est une association terminée. On l'a confirmé aujourd'hui et on a senti beaucoup d'émotion dans la voix de Thomas Plekanec, d'ailleurs, qui a préféré couper court à ses mots, à ses paroles, plutôt que de se laisser envahir par l'émotion. Je pense qu'il se voyait quand même, comme il l'a dit, finir sa carrière, mais pas exactement aujourd'hui avec le Canadien. Ça, je pense que c'est un jour triste pour lui, même si c'est une belle carrière dans l'ensemble.
Ouais, tu sais, puis quand tu dis son association est terminée, moi je vois plus ça comme une association comme joueur, mais j'ai comme l'impression, tu sais, qu'un gars comme Plekanec qui en a donné tellement aux Canadiens, c'est un nom qu'on va entendre pendant encore longtemps en fait de joueur exemplaire du côté du Canadien qui a tout donné aux Canadiens de Montréal. Tu sais, on l'oubliera pas de sitôt. Je te dis pas que c'est un joueur dans la trempe des Richard, des Lafleur, des Patrick Roy et compagnie, mais c'est quand même un joueur qui a donné tout près de 1000 matchs aux Canadiens de Montréal. Ça arrive plus régulièrement de nos jours, surtout à Montréal. Donc, écoute, je lève mon chapeau à Plekanec. Ça a été tout un coéquipier quand j'ai eu la chance d'évoluer avec lui. J'ai un très, très grand respect pour lui. Puis je le félicite là pour sa belle carrière.
Max Domi a dit qu'il savait pas qu'il pourrait apprendre autant de choses d'un gars qui parlait aussi peu. Il le disait avec un sourire, mais il semblait candide. Il était à ce point peu bavard.
Oui, écoute, Thomas, c'est pas un gars qui parlait beaucoup dans la chambre. C'était plus un leader, par exemple. Tu le regardais travailler, il faisait toujours les bonnes choses. C'était un vrai professionnel. C'est ce qu'on entend de lui. Puis moi-même, si j'ai une chose à dire de lui, c'était un vrai professionnel, toujours bien préparé, mais c'était pas le joueur le plus bavard dans les parages de l'équipe, mais un joueur qui était apprécié là, de la majorité de ses coéquipiers.
Même Carey Price, je pense que si c'était laissé aller, là, on l'aurait entendu avec un mouton dans la gorge au sujet de Plekanec. Donc, malgré ça, malgré son profil de personnalité, il faut croire qu'il a réussi à créer des liens avec quelques-uns de ses coéquipiers.
Oui. Puis, écoute, je pense que je l'ai dit auparavant. Dans mon cas, je le détestais en arrivant à Montréal. Puis c'est un des joueurs que j'ai apprécié le plus avec mon séjour chez le Canadien. Comme je disais, tout un professionnel, un bon gars qui a pas de malice à part quand il joue, quand il doit l'affronter. Donc, c'est quand même une bonne chose à avoir.
Parlant de Carey Price, parlons de son jeu, de la qualité de ses performances. Une dure semaine pour lui. 6 buts hier, 5 buts il y a quelques jours. Comment tu vois ça? Et lui-même qui l'a dit, moi j'anticipais qu'il s'agissait de problèmes de confiance, parce qu'il l'a dit en fin de saison l'an passé que sa confiance avait été affectée. C'est pas en claquant des doigts que ça revient, là. Puis il est encore dans le processus, mais est-ce qu'il y a une chance que ça revienne pas au niveau de ses beaux jours, Daniel?
Ben, il y a toujours une chance, oui. Moi, je suis pas prêt à lâcher du côté de Carey Price pour le moment. Je crois encore en lui. Je crois encore que ça peut être un des meilleurs gardiens de la Ligue nationale. C'est certain que l'an dernier, ça n'a pas été une bonne saison, mais ça, c'était l'équipe au complet. Là, les derniers jours, encore une fois, un peu plus difficile, mais il y a quand même eu des bons matchs. Il y a eu des matchs cette saison où on s'est dit, OK, c'est là, je pense que ça s'en vient. On le sent que ça s'en vient. Mais il n'y a pas de doute là, que les derniers jours n'ont pas été les meilleurs pour les meilleurs matchs pour Carey Price. Écoute, je pense que ça peut revenir. Dans son cas, je pense pas qu'il est terminé comme gardien. Je crois encore en lui. Mais il n'y a pas de doute là, qu'il doit trouver une façon de revenir comme il était là, auparavant.
C'est difficile pour toi, un joueur, peut-être de faire des parallèles avec un gardien de but, mais tentons-en un ou deux là, par rapport à l'aspect mental ou encore même à l'aspect physique. Quand on est en début de trentaine dans la Ligue nationale, Daniel, est-ce que tu peux un peu deviner quand il dit c'est « upstairs », c'est dans la tête? Est-ce que tu penses également à l'aspect physique? Qu'est-ce que tu peux nous partager comme réflexion par rapport à ça?
Bien, du côté des gardiens de but, côté physique, je pense qu'un gardien de but peut évoluer plus longtemps, peut garder un haut niveau de jeu plus longtemps qu'un joueur d'avant. Parce que ça demande pas autant de vitesse sur patin. C'est plus que tu as d'expérience comme gardien de but, je pense que ça t'aide jusqu'à un certain moment donné. C'est pour ça que Carey Price, je crois encore en lui. C'est pas comme si il avait perdu son coup de patin. C'est une histoire de confiance. Puis de ce côté-là, la confiance, là, ça peut revenir rapidement, mais quand ça part, là, des fois, c'est difficile à la retrouver. Ça peut prendre un temps. Oui. Ah oui, je l'ai vécu à maintes reprises même, je te dirais. Puis c'est vraiment pas le meilleur feeling. Mais tu sais, ça prend pas grand-chose pour retrouver ça. Des fois, là, ça peut être l'histoire de un ou deux matchs, puis ça se replace. Puis pour un gardien de but, tu sais, pour un gardien de but, c'est plus difficile parce que tu peux pas te cacher. Chaque erreur là, saute aux yeux de tout le monde. Comme joueur d'avant, tu peux faire une erreur ici et là, puis ton défenseur te sauve la vie ou ton gardien te sauve. Donc, tu peux te cacher beaucoup plus facilement comme joueur d'avant plutôt que comme gardien de but.
Retour à Montréal demain dans l'uniforme des Knights de Vegas de Max Pacioretty. As-tu une petite idée de ce qu'il peut ressentir, de ce qu'il peut anticiper comme soirée?
Moi, je pense que Max va sûrement être très, très nerveux. Il ne saura pas trop à quoi s'attendre de la part des fans du Canadien. Je pense que c'est comme ça qu'il va se sentir. Il va être très, très nerveux pour le match de demain. Mais écoute, il a été un bon soldat pendant plusieurs années. Il a donné beaucoup aux Canadiens de Montréal. Ça va être quand même assez spécial de revenir à Montréal, chez lui, dans le fond, parce qu'il a passé plusieurs années là, puis avoir la chance de jouer devant plusieurs amis qui a accumulé là, autant au cours des années à Montréal.
Oui, très certainement. Puis le Canadien prévoit d'ailleurs un hommage vidéo, je pense, qu'on fera avant le match ou pendant la première période. Alors, il devrait être très touché de ça. Toi, Daniel, après que tu aies signé ton gros contrat avec les Flyers de Philadelphie, il y avait des gens à Montréal qui souhaitaient que tu signes avec le Canadien. Quand tu es revenu jouer ton premier match dans l'uniforme des Flyers avec ton nouveau gros contrat, je pense que tu avais eu un accueil spécial à Montréal, hein?
Assez spécial. Puis moi-même, cette journée-là, j'étais extrêmement nerveux. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Les huées ce soir-là ont été beaucoup plus féroces que ce que je m'attendais. Ça a été difficile d'évoluer ce match-là, mais j'ai appris beaucoup. Ça m'a donné la chance là, d'apprendre comment jouer ces matchs-là, parce que par la suite, ça a beaucoup mieux été dans mon cas personnellement, mais ce premier match-là à Montréal là, avait été extrêmement difficile.
Ouais, j'imagine que tu t'en souviens. C'est un bon souvenir ou un mauvais souvenir?
Écoute, quand c'est arrivé, je savais pas trop comment réagir. C'était extrêmement intense. Je te dirais que j'ai été au cours des années, j'ai été capable de tourner ça en positif. Tu sais, je regarde ça maintenant en arrière, puis je me dis, écoute, c'était quelque chose de spécial. Parce que quand tu te fais huer là, par l'aréna au complet, ça veut dire que tu déranges, ça veut dire que tu fais quelque chose de bien. Mais c'est sûr que sur le coup, là, c'était pas facile à jongler tout ça.
Fait que tu dois avoir une petite idée de comment Piqué se sent dans bien des arénas de la Ligue nationale, Daniel.
Oui, exactement. Ça m'est arrivé à quelques reprises. Puis, les premières fois, c'est pas facile, mais tu apprends à évoluer à travers tout ça. Puis tu prends de l'expérience avec tout ça. Donc, c'est quand même une belle marque d'attention. Puis c'est comme un compliment quand on te fait ça, surtout quand tu vas jouer là, sur les patinoires extérieures, tu te fais huer. Ça veut dire que tu fais quelque chose de bien.
Ben, bon séjour à Jonestown, mon cher Daniel. À qui sont les Chiefs?
Ah oui, c'est vrai. À qui sont les Chiefs, mon Mario?
Bonne fin de semaine, Daniel.
Merci, Mario. À bientôt.
Bye, à très bientôt. On revient dans un instant avec Danny Machiocia, l'entraîneur des Carabins, qui nous dit comment son équipe pense pouvoir surprendre le Rouge et Or de l'Université Laval demain pour la Coupe Dunsmore.
Hey, Drouin, change de canal. OK.
Hey, laisse-les là, Jean-Guy. Toi, je dis pas.